Depuis des années et des années, il y a des dizaines de jeunes gens qui sont exécutés pour trafic de drogue et ce qu'ils appellent les loubars. Il y a certainement des trafiquants de drogue, mais il faut voir quelles sont leurs charges, quels sont leurs avocats, qu'est-ce qui s'est passé. En tout état de cause, on sait qu'il y a eu des gens qui ont été exécutés sous des faux prétextes il y a quelques années, donc il se peut très bien que ça continue.
Téhéran a annoncé aussi des lapidations, il y a eu ces pendaisons donc dimanche dernier, des exécutions qui sont hautement médiatisées en Iran. Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon pour le régime iranien de contenir la révolte en effrayant les gens?
Oui, de tout temps ça a été inacceptable, mais maintenant c'est évident qu'ils ont extrêmement peur étant donné qu'il y a une pression internationale de plus en plus forte, bien sûr. Donc pour tenir l'intérieur, effectivement, c'est le régime de la terreur, bien sûr.
Est-ce qu'aujourd'hui il est encore possible d'exprimer ses idées en Iran?
Oui, je pense qu'il est possible d'exprimer des idées en Iran, ça oui. Vous pouvez tout dire, mais vous ne pouvez pas agir. Le laisser hurler les gens, de parler les gens, de les laisser s'exprimer, c'est soupape de sûreté, c'est une politique assez fine à mon avis. Mais essayer d'agir, là ils ne rigolent pas du tout.
L'Union européenne a exhorté l'Iran à respecter ses engagements ainsi que les normes internationales relatives aux droits de l'homme. Est-ce que vous pensez néanmoins que l'Union européenne devrait faire plus que des communiqués ?
Vous savez, très sincèrement, cette hypocrisie occidentale, l'Union européenne, les États-Unis, le gouvernement de M. Khatami, il y a eu le plus de lapidation de femmes et d'hommes que toutes les autres périodes, que sous la Rafsanjani, que sous Ahmadinejad, que... Et l'Union européenne et les États-Unis parlaient des avancées des droits de l'homme en Iran. Donc là-dessus, je veux dire, l'Union européenne, vraiment, il commence... si l'Occident croit à ses propres valeurs de laïcité, de droits de l'homme, il aurait fallu dès le départ être beaucoup plus ferme. On n'en serait pas là aujourd'hui. Et c'est les Iraniens qui payent le prix. Parce que les mollahs, ça ne leur fait pas peur. Non, l'Union européenne en ce moment est en train de brandir la carte des droits de l'homme, et là les mollahs ont raison en disant que c'est une carte politique, c'est parce qu'ils veulent obtenir autre chose de l'Iran sur le dossier atomique, ils n'en ont rien à fiche du non-respect de la violation des droits de l'homme et de la situation terrifiante de la population iranienne. Donc est-ce qu'ils devraient faire autre chose à ce moment-là? Il faut effectivement soutenir les opposants démocrates iraniens à travers le monde, leur donner des tribunes, et ça, ils auraient dû le faire depuis très longtemps.
Alors, vous parlez des conséquences pour la population iranienne. Depuis le début de l'été, en Iran, l'électricité est coupée de 2 à 4 heures par jour, selon les villes et les provinces. On parle de files d'attente qui n'en finissent plus devant les stations-service, les menaces de coupure d'eau, tout ça qui rend le quotidien des Iraniens donc de plus en plus difficile. Est-ce que, justement, les sanctions internationales qui ont été décidées contre l'Iran touchent directement, finalement, plus les Iraniens que le régime?
Bien sûr. Vous savez à quel point les caisses de l'État iranien est remplie. Les caisses sont remplies à ras-bord. Donc, ce n'est pas les mollahs et ce n'est pas le gouvernement qui va chavirer. Et en plus, il faut pas se leurrer. Pendant ce temps, ils sont en train de négocier avec l'Iran. Par rapport aux mollahs, j'ai l'impression que c'est les mollahs qui mènent le jeu beaucoup plus que les autres. Mais au détriment de qui, encore une fois? Au détriment de la population iranienne.